Bézrat Hachem, notre deuxième cours sur le chapitre 40. La vérité, c'est que le chapitre 40 est un chapitre qui n'est pas simple. Donc c'est pour ça que j'essaye de prendre quelques parties clés de ce chapitre, qui sont accessibles à tous, pour ne pas trop vous compliquer la vie. Parce que le but n'est pas non plus de s'envoler pour rien comprendre, évidemment. Le but, c'est d'essayer de comprendre quelque chose. Alors, dans ce chapitre, le chapitre 40 et le chapitre 38, 39, on parle beaucoup de Kavana. Ok ? C'est quoi la Kavana ? Kavana en hébreu, ça veut dire intention. C'est-à-dire que je crée une relation avec la chose. On a donné plusieurs exemples la semaine dernière et la semaine d'avant. Enfin, la semaine d'avant-avant, c'est Shavuot. On a expliqué que c'est quoi la Kavana ? Ça veut dire que lorsque je fais une mitzvah, je dois tout faire pour ne pas m'arrêter au détail, à l'aspect technique de la mitzvah, mais je dois essayer de vivre la mitzvah comme je peux. Donc on a donné plusieurs exemples. Un des exemples est tout simplement lorsque je mets les téfilines. Je mets les téfilines. Je peux mettre les téfilines sans kavana, ça veut dire mettre les téfilines physiquement et c'est tout, basta. Et je peux mettre les téfilines avec une kavana, ça veut dire essayer de vivre ce que je fais. Et là, c'est évidemment, c'est toute une autre mise de téfilines. Donc on nous a parlé de kavana. Maintenant, si on rentre plus dans les détails, la kavana se développe autour de deux sentiments. Et là, c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. L'amour et la crainte. Pour expliquer ça, je vais vous donner un exemple concret. D'accord ? Imaginons la relation que vous avez, par exemple, avec votre femme. Vous avez une relation. Vous êtes marié, d'accord ? Vous avez une relation avec votre femme. C'est-à-dire que vous vivez avec elle. Alors, comment vous décrivez cette relation ? Si vous devez donner un mot. Est-ce que c'est une relation d'amour ou de crainte ? Ou les deux ?
Non, la crainte, c'est l'amour. C'est
de mariage.
Eh bien, il est honnête. Voilà, c'est bien. Non, sérieusement, est-ce que c'est une relation d'amour ou de crainte ?
C'est l'amour.
L'amour induit la crainte.
Bon, alors attendez, on va essayer. Non, on va essayer de donner des mots. Donc il y a de l'amour. Déjà, l'amour, c'est quoi l'amour ?
C'est tout attaché à elle.
L'amour, ça veut dire que. Alors, c'est quoi l'amour déjà ? L'amour, c'est. Si, bien sûr, c'est définissable l'amour. Évidemment que c'est définissable.
Il y a des définitions.
Il y a des niveaux de niveaux, mais c'est définissable. C'est définissable. Bien sûr, c'est définissable, heureusement. Donc, c'est quoi l'amour ? Ben, l'amour, ça veut dire que j'aime la personne. J'ai un sentiment d'amour envers cette personne. Et un sentiment, c'est pas forcément quelque chose de logique. C'est un sentiment. Je sens que je suis attiré vers une personne. Donc, l'amour, c'est un sentiment d'attirance. De la même façon que je peux aimer un aliment. Vous m'excusez pour la comparaison, parce que je reviens plus tard. Ça veut dire quoi, j'aime un aliment? Ça veut dire que je suis attiré, par exemple, j'aime les crackers. Ça veut dire quoi, j'aime les crackers? Ça veut dire qu'il y a un sentiment d'attirance.
C'est irrationnel.
C'est
irrationnel.
Voilà, on touche presque à l'irrationnel.
Il n'y a pas de raison.
Je sais pas. J'ai...
Ah oui.
Peut-être qu'il est. Qui il est là?
Boulangerie à côté.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, prenons ici ce. C'est quoi, c'est les chips, ça, oui? Ouais. Voilà. Donc imaginons que je suis attiré vers la chips, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que même si la chips est loin, elle est loin d'ici, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, qu'est-ce qui se passe ?
Non, c'est le
boulanger.
Le monsieur qui s'occupe de chez Simon. Simon, il ramène à chaque fois les
baguettes
de reste. Il les donne à chaque fois pour qu'il les mette à salle. Il les donne.
On reprend. Imaginons par exemple, bonsoir. Imaginons par exemple, je l'ai pas vu. Imaginons par exemple cette chips. D'accord? Ou ce chip, cette chips, je sais pas comment on dit. Bon. Donc, et j'aime ça, je l'aime. Si je l'aime, ça veut dire qu'il y a un sentiment d'attirance. Ça veut dire quoi, attirance? C'est un peu cru, mais ça veut dire que, même s'il est loin, moi j'ai envie de m'approcher vers lui, j'ai envie de le prendre vers moi. C'est un sentiment d'attirance. Parce que l'amour, c'est une envie de m'approcher de quelque chose. Ou de l'approcher de moi. Maintenant, c'est quoi la crainte? La crainte, c'est le contraire. Quand on a peur de quelque chose, on cherche à s'en éloigner. Alors, si je devais maintenant appliquer ça par rapport à votre femme, ou par rapport à quelque chose que, voilà, avec laquelle vous avez une relation, est-ce que votre femme, vous l'aimez ou vous la craignez? Alors, on va commencer par le premier.
Non, mais c'est les deux.
Attendez, on va commencer par le premier. C'est quoi l'aimer? L'aimer, c'est qu'il y a un sentiment d'attirance. D'accord. C'est quoi la craindre? Ça veut dire quoi, la crainte?
C'est pas avoir peur de la douceur.
Alors justement, la crainte, c'est deux choses. La crainte, c'est, ça peut être, il y a une crainte négative, qui est l'envie de s'éloigner de quelqu'un. Ça, effectivement. Mais la crainte, ça peut être aussi la peur de décevoir quelqu'un. D'accord? Je vous donne un exemple. Imaginez par exemple que votre femme va vous demander, elle va vous dire, essaye de pas rentrer après 20h. Bon, maintenant vous êtes pris au boulot, vous voyez que 20h arrive et vous n'allez pas être à la maison. Qu'est-ce que vous pensez à ce moment-là?
Je suis en retard.
Bon, et.
Elle va me faire ma fête.
Alors, et deux choses. T'as celui qui a la crainte, qui a la peur. D'accord? C'est qu'il se dit, ils vont me faire la fête. Ils vont me faire la fête à la maison. D'accord? Mais t'as celui qui, c'est pas qu'il a peur, qu'est-ce qu'il va me faire déjà?
Il a pas envie de la décevoir.
C'est qu'il a pas envie de la décevoir. Il dit, j'ai pas envie de la décevoir. Donc, c'est pas de l'amour qui se développe à ce moment-là, c'est une crainte.
C'est une crainte respectueuse.
Voilà. Ça veut dire que dans toute relation qu'il y a avec n'importe quelle personne et n'importe quelle chose, on peut retrouver un sentiment d'amour et un sentiment de crainte. Sentiment d'amour, c'est j'aime la chose, je veux m'approcher d'elle, ou je veux l'approcher de moi. Sentiment de crainte, c'est soit j'ai peur de la chose, soit j'ai peur de le décevoir, j'ai peur de m'éloigner. D'accord? Et ça, c'est très important, ça. Très important. Parce que si on n'a que l'amour sans la crainte, d'ailleurs, ça on va développer dans le chapitre 41, si on n'a que l'amour sans la crainte, c'est purement égoïste. Parce que, regardez, imaginez par exemple que je dis que j'aime quelqu'un. Qui j'aime? J'aime cette personne ou je m'aime à moi? Ah si, si, réfléchissez bien.
Commencez par s'aimer.
Je vais être un petit peu cru, je vais arrêter en... Je mange du poisson avec tellement d'appétit parce que j'aime le poisson. Non? Bonne réponse. Le Rav, il a dit, je comprends pas. Toi, les gens que tu aimes, tu les déchires comme ça, avec des couteaux, avec etc. C'est le poisson que tu aimes ou c'est toi que tu aimes? Tu dis, j'aime le poisson. J'aime le poisson.
Et donc, le poisson lui fait du bien.
Ah, donc c'est pas la même chose. Ne dis pas que tu aimes le poisson.
Il se fait plaisir en l'aimant.
Ah oui, parce que aimer le poisson, ça veut dire qu'il y a un monsieur qui s'appelle poisson et je l'aime. Là, tu l'aimes pas le poisson. Tu sais même pas qui il est, tu connais sa vie, tu sais d'où il vient. T'en as affaire de lui. T'es en train de le prendre, tu le coupes, tu
le
charcutes.
D'accord.
Ah, donc tu n'aimes, c'est pas le poisson que tu aimes. C'est la satisfaction que te procure le poisson que tu aimes. On est d'accord? Bon. Alors, si on appliquait ça par rapport à une relation qu'on a avec nos enfants, et à nos enfants et notre femme, puisque j'ai parlé de ça, d'accord? Comment ça fonctionne? Est-ce que j'aime ma femme? J'aime mes enfants? Ou est-ce que j'aime le sentiment qu'ils me procurent? Exemple. Imaginons par exemple que pour moi, un enfant doit être un enfant modèle, doit se comporter comme ça et comme ça. Et qui ne se comporte pas comme j'aurais voulu. Qu'est-ce qui se passe? J'arrête de l'aimer? C'est là que ça va dépendre. Si tu l'aimes parce que tu l'aimes par rapport au sentiment qui t'amène, dans ce cas-là, effectivement, s'il ne te donne pas ce que tu veux, tu l'aimes pas. J'ai acheté un poisson, j'ai cru qu'il allait être bon, il n'était pas bon, j'aime pas. Mais si tu aimes vraiment le poisson tel qu'il est, tu dis, le poisson, je l'aime tel qu'il est, c'est tout. Alors, bien sûr que j'aurais aimé, qu'il se comporte de cette façon, mais ça c'est autre chose.
Oui, il y a plusieurs formes.
Ça n'empêche, bien sûr.
Il y a plusieurs formes d'amour.
Ah, bien sûr, parce que il y a une forme d'amour qui est égoïste. Et la vérité, si on est honnête, la majorité des amours qu'on a sont égoïstes. On est égoïste. Ça veut dire qu'en vérité, quand je dis j'aime quelque chose, c'est pas la chose que j'aime. J'aime le coca, j'aime le crackers. C'est pas le coca que j'aime. Je m'aime à moi et j'aime le sentiment que me donne le coca. Donc j'aime pas le coca. Vous allez me dire c'est une petite nuance, mais c'est une nuance très importante. Et vous allez voir, on va avoir le même problème avec Dieu.
Non mais attends.
Parce qu'on va avoir le même problème avec Dieu. Quand je dis j'aime Dieu.
Je connais pas.
C'est-à-dire quoi, j'aime Dieu? J'aime ce que Dieu me donne ou j'aime Dieu?
Non. En général, c'est j'aime ce que Dieu me donne ou ce qu'il peut ne pas me donner.
Donc ça veut dire je l'aime pas.
Donc ça veut dire j'ai peur de lui.
Donc ça veut dire que je l'aime pas en vérité. Je l'aime pas à lui, je m'aime à moi. C'est un sujet de philo ce que je vous fais là. Mais c'est très important.
Non, je veux dire, j'ai rap, c'est tout ce que j'ai.
Ah, c'est là, tu parles de la crainte, je parle de l'amour maintenant.
Oui, mais elle est induite avec le reste. Alors, j'ai plus de crainte que okay. L'amour.
Toi, tu parles de.
J'aime ce que Dieu me procure.
Bah, au ratat, dans le château de
Véran. Et il te procure quoi, je t'en prie?
C'est ça.
Mandy.
Oui.
Il y a deux dimensions. Il y a ce qu'on appelle une dimension qui est actrice. Tu es aimé par rapport à l'autre et pour l'autre.
Oui.
Et il y a une approche qui est donnée, c'est-à-dire je m'aime pour moi et rien que pour moi. Et là, tous les comportements qu'on va avoir, ils vont être égocentriques. C'est-à-dire,
j'ai chaud.
Moi, je suis le centre d'intérêt de tout, et tout ce que je vais faire va tourner par.
Est-ce que je vais réellement aimer l'autre personne? Ça, c'est la question.
Maintenant, l'autre question, c'est un amour altruiste. J'aime l'autre et j'aime que les autres, et je vais faire tout pour.
Et moi?
Non, moi, je suis pas prêt.
Donc je ne m'aime pas.
Non, c'est pas bon, c'est pas bon.
C'est la première forme, c'est la première forme.
On va voir. C'est pas ça, parce qu'en vérité, c'est faux. Dans la réalité, c'est faux. Dans la réalité, quand on dit qu'on aime quelque chose, c'est qu'on s'aime à soi-même. C'est très difficile de trouver un amour.
Si je mange des chips,
ah oui, vous aimez les chips? Non, vous n'aimez pas les chips. Vous aimez vous-même. Vous les connaissez les chips? Vous connaissez leur histoire? Vous savez d'où vient la pomme de terre?
Ah.
Donc vous l'aimez pas. Elle m'a parlé, qu'est-ce que tu racontes que tu m'aimes? Tu m'aimes pas. Bien sûr. Alors justement, donnez-moi quelque chose que vous aimez.
Les enfants.
Hein? Très bien. Vous pouvez me dire, j'aime ma femme, j'aime mes enfants. J'aime mes parents, j'aime mes frères, j'aime mes sœurs, j'aime ma famille, j'aime ma communauté. Mais le problème, c'est qu'il faut bien se poser la question, quand tu dis j'aime, ça veut dire quoi j'aime? Est-ce que ça veut dire j'aime dans le sens, je l'aime vraiment, et peu importe moi, ce qui compte c'est comment lui il va, et je veux son bien? Ou est-ce que j'aime ce qu'il me procure?
Finalement, c'est pas ce que c'est que vraiment l'amour.
Et ça, c'est très important, parce que quand une personne va dire, par exemple, j'aime une femme par rapport au sentiment qu'elle me procure, le jour où elle me procure plus de sentiments, parce que bon, les années de mariage sont passées, bah, je dis, c'est fini, je l'aime plus. Eh, c'est comme Facebook, tu vois, j'aime pas, tu vois, c'est un clic, j'aime pas, bon,
like,
c'est fini.
Like.
Il y a like, après il n'y a plus like, c'est fini.
Un nouveau-né, on peut l'aimer.
Pourquoi vous l'aimez?
Parce que voilà, il vient d'arriver, tout mignon, il
peut l'aimer. Pourquoi vous, attendez.
Non, mais tu le connais pas.
D'abord, vous l'aimez pas.
Il nous amène
vous aimez le sentiment qu'il vous procure.
Alors, comment tu expliques que là...
Comment vous pouvez dire que vous l'aimez? Vous savez même pas qu'est-ce qu'il est. Bah oui. Vous aimez qui? Vous aimez quoi? On va développer, vous inquiétez pas.
On aime rien.
Comment tu expliques que
on est égoïste,
elle va devenir mère qu'elle va coucher.
On est froid comme un
serpent. Instantanément, son bébé.
Qui vous dit qu'elle aime?
Bah comprendre, Charles.
Non, j'ai pas dit qu'elle aime pas. Qui vous dit qu'elle aime?
C'est évident.
Ah bah, pas parce que c'est évident que... Qui vous dit qu'elle aime?
Non mais il est évident, tu vas avoir pleuré.
Non, ça n'a rien à voir. Ah, c'est vous allez voir.
C'est ton évident. C'est le bien qui va lui amener.
La tienne, par rapport à ton histoire. Une fois sur 10, c'est l'évidence par rapport à...
Bon, on va développer.
Chacun son histoire.
J'ai pas dit ça. Il faut qu'on développe.
Pas une personne qui aime la même chose.
Évidemment que l'amour existe. Sinon, genre... Alors, on y va. Voilà, on y va.
Pas systématique.
J'apprends toutes les formes.
D'après la Chassidout...
La Chaïma.
Les Chaïm, exactement. D'abord, on va commencer par les
Chaïm. Comme il y a des gens, il y a des mecs qui frappent leur femme. Il dit, il la frappe. Et je l'aime.
C'est pour son bien.
Comment
frappe parce qu'il sait pourquoi.
Comment tu la massacres et tu l'aimes.
C'est possible qu'il aime.
T'as quatre figures.
C'est le coca, s'il vous plaît. C'est interdit, évidemment, mais. Merci. Zach David.
C'est David Assouda.
Je vois. On a le masqué, on a tout ce qu'il faut, là. Hein?
C'est une bouteille de Joseph avec le Red Label.
Regarde. Ok. Alors je reprends la question. D'accord. On a dit que, parce que encore une fois, ne perdons pas de vue. Le but dans le cours d'aujourd'hui, et ça fait déjà 4-5 cours, c'est d'expliquer c'est quoi une kavana. Donc on a expliqué que voilà, par exemple, je mets les tefillines, je dois avoir une kavana. C'est quoi la kavana? C'est je dois avoir une relation avec la chose. Je dois me poser la question, qu'est-ce que les tefillines m'amènent dans la vie? Très bien. Là, on commence à décortiquer. On te dit, qui dit kavana dit que obligatoirement, tu dois développer un sentiment par rapport à la chose. Et dans les sentiments, il y a deux pistes. Après, il y a des variantes, mais il n'y a que deux pistes. C'est soit un sentiment d'amour, soit un sentiment de crainte. Soit un sentiment d'amour, ça veut dire j'ai un sentiment d'attirance vers la chose. Soit un sentiment de crainte, ça veut dire j'ai un sentiment d'éloignement de la chose. Mais ça ne veut pas dire que je vais m'éloigner de la chose. Par exemple, comme a dit Michael, ça peut être la peur de décevoir. Ça veut dire que j'ai peur de m'éloigner de la chose. Ok. Maintenant, on va essayer d'appliquer ça par rapport à Kadosh Baruch Hu. Ok. Bon, la crainte, c'est plus facile. C'est facile.
On a peur du péché.
J'ai peur du péché. J'ai peur de faire une bêtise parce que j'ai peur de...
Prendre
sur la tête. Ça, c'est facile. La crainte, c'est plus facile.
Bah oui.
Ça veut dire avoir peur de quelqu'un, c'est facile. Imaginez quelqu'un, vous voyez même un chien enragé, vous le voyez, il arrive ici. Vous avez peur ou vous n'avez pas peur? Vous avez peur, pourquoi vous avez peur? Parce que vous le voyez. Donc on peut très facilement développer un sentiment de peur envers Dieu. Pas de peur comme un chien, Dieu préserve, mais de peur. On sait que Dieu, il est capable de tout, et on sait que Dieu m'a donné des ordres, et je sais que si je les écoute pas, je sais ce qui m'attend. Ça, c'est facile. Par contre, développer un sentiment d'amour envers Dieu, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que je peux dire que j'aime Dieu? Il est écrit. Tout à l'heure, on va lire dans le schéma, et ce matin, on l'a lu. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Est-ce que je peux dire que j'aime Dieu comme j'aime ma femme, comme j'aime mes enfants, comme j'aime une pizza, comme j'aime, je sais pas, un plat d'une kaila ou ce que vous voulez, enfin, c'est pas mes plats, mais venez les plats que vous pourriez aimer. Est-ce que je peux dire que j'aime Dieu?
Pas pareil. Parce que là, tout ce que vous venez d'énumérer, c'est ce qu'on voit.
Ah. Pourtant, la Torah dit Ve'ahavta.
Oui, mais Dieu, là, je...
Ouais, alors, comment tu veux que j'aime?
Il existe, mais je ne le vois pas.
D'accord. Alors, dans ce cas-là, ce que vous dites, c'est Dieu, je l'aime pas, mais j'écoute ce qu'il me dit. Mais c'est pas ce que la Torah te dit. La Torah te dit Ve'ahavta. C'est quoi Ve'ahavta? Tu l'aimeras. Donc, ça veut dire, et c'est ça, c'est très compliqué. C'est là qu'on comprend que la Kavana, c'est un registre qui est beaucoup plus compliqué qu'il en a l'air. Parce que, mettre les tefilines, l'acte de mettre les tefilines, c'est facile. Je prends les tefilines, je les mets et c'est terminé. Mais développer un sentiment envers la mitzvah, un sentiment d'amour ou de crainte, c'est beaucoup plus compliqué. Tu dis, écoute, dis-moi ce que je dois faire, laisse-moi tranquille. Laisse-moi mes centres d'intérêt. Tu dis, non. On veut que Dieu devienne ton centre d'intérêt, que tu l'aimes. Et si je l'aime pas, comment je fais?
On va pas expliquer c'est quoi l'amour finalement.
Ah oui.
Finalement, on n'aime pas vraiment la satisfaction.
L'amour, on a expliqué, c'est vouloir le bien de quelque chose. Sans chercher mon bien à moi.
Ah d'accord, d'accord.
Tu comprends? Quand un bonhomme, il est marié, ça fait 15 ans. Et que bon, à un moment, il voit quelque chose ne tourne pas comme il pensait, ça fait 15 ans. Alors s'il s'aime qu'à lui, il va dire, écoute, moi je croyais qu'elle allait me procurer ça, elle me procure plus ça, donc j'arrête. Ah oui. Si je m'aime, je suis parti acheter quelque chose, ou je suis parti chercher quelque chose, et ça me procure plus le même plaisir que ça me procure avant, je dis, j'arrête. Mais si c'est pas moi que j'aime, j'apprends à aimer l'autre. Donc là, dans ce cas-là, mon optique, c'est pas, est-ce que moi, ça me fait plaisir? C'est, est-ce que la personne que j'aime, est-ce que réellement, j'arrive à l'aimer comme il faut? C'est une optique complètement différente. Et la vérité, il faut être honnête, on réfléchit pas naturellement comme ça. Parce que l'homme, naturellement, est égoïste. Faut le savoir. Mais il faut l'assumer, c'est comme ça, l'homme a été créé comme ça. Donc c'est un effort, c'est un effort.
Hein?
Oui, l'être humain. Ah oui, l'être humain. Pas que l'être humain d'ailleurs. Même les animaux. Je veux dire, toute créature est créée de façon égoïste. C'est comme ça qu'elle a été créée. Et Dieu, il te dit, faut arrêter de penser à toi. Faut penser à l'autre. Pense, quand tu dis que tu aimes quelqu'un, ça veut dire que tu penses à ce qui lui fait plaisir, pas à ce qui te fait plaisir. D'accord?
Et c'est ce que Dieu veut, ça.
C'est ce que Dieu veut, oui. C'est ce que Dieu veut. Ça, c'est l'amour.
C'est avalisant.
Ça, c'est l'amour. Ça veut dire que, quand vous voyez des petits jeunes, je vais être un peu cru, mais quand vous voyez des petits jeunes, tu vois, quand il est là, il a 22 ans, il dit bon, et alors voilà, je fréquente une fille, etc. Je l'aime, je me marie avec elle. Le jeune, il te sort, tu dis qu'il aime. D'accord? Ah bon, tu l'aimes? T'es sûr que tu l'aimes? Tu dis qu'il aime. Qu'est-ce qu'il aime dans cette fille? Qu'est-ce qu'il aime?
L'attirance et son comportement. Ça...
Donc il aime le sentiment qu'elle lui donne. Il aime avoir une belle fille à côté de lui. Ou il aime son caractère. Attendez, donc il l'aime pas elle, il s'aime à lui.
Pourquoi?
Attendez, non. Moi, je vais vous donner l'approche de la Torah. Et là, vous allez voir que c'est l'approche du chidour. La Torah te dit, tu peux pas aimer une personne avant de te marier.
Pourquoi il cherche à...
Tu peux avoir un sentiment d'attirance générale, de sentir qu'on va dans la même direction. Mais le vrai amour va venir avec le temps, avec le mariage, quand les problèmes vont arriver, et qu'ensemble on va construire, qu'ensemble on va les développer, et qu'ensemble on va apprendre à mettre de côté chacun ses intérêts pour les intérêts de l'autre, c'est là que le vrai amour va arriver. C'est là le Ahava. C'est ce que la Torah nous dit. La Torah nous dit que le vrai sentiment de Ahava ne peut pas être avant le mariage.
Mais attends,
mais c'est ça ce que tu racontes. Ce que tu racontes, l'amour que les gens croient avoir avant le mariage, d'accord? Ça, c'est du bluff, ça.
C'est du bluff, mais on essaye.
Il y a des coups de foudre.
Ça, c'est du bluff, ça. Ça veut dire que tu veux l'attirer, donc tu te fais beau pour l'attirer, comme ça elle vient vers moi.
C'est du bluff, ouais.
Ah oui, mais c'est du bluff, évidemment, c'est du bluff. Ça, c'est de la poudre aux yeux, ça. Non, mais elle a dit l'autre, la poudre de perlimpinpin.
C'est
poudre de perlimpinpin.
C'est fait pour rassurer.
C'est pas de la sortie de trace.
Et c'est tout de même fait pour rassurer. Il était amoureux.
Hein?
Il est là pour te rassurer que tu peux être amoureux.
D'après la Torah, la définition de l'amour n'est pas quelque chose que tu as, n'est pas un sentiment égoïste que j'ai zioté sur quelqu'un, elle me fait plaisir, donc je vais l'avoir pour moi. Ça marche pas comme ça. Après la Torah, l'amour, c'est exactement le contraire. C'est je décide de construire avec quelqu'un et de faire un effort pour quelqu'un. C'est pour ça que je vous donne un exemple. Vous avez parlé tout à l'heure d'un bébé. Il y a un bébé qui sort du ventre de sa mère elle l'aime. Attendez, on va parler du père. Voilà. Le bébé il sort du ventre de la mère. Vous voyez le bébé. Est-ce que vous pouvez dire que vous aimez le bébé?
Non.
Non, vous l'aimez pas?
Non, pas du tout.
Vous le connaissez pas le bébé? La mère, à la limite, elle peut dire qu'elle aime le bébé. Vous savez pourquoi? Parce que la mère, elle a porté pendant 9 mois et elle a donné pour ce bébé. Donc elle peut dire qu'elle l'aime. Moi, en tant que père, est-ce que je peux dire que j'aime ce bébé lorsque le bébé il a un jour? Non, je ne l'aime pas.
Moi je peux dire que oui.
C'est pas, je le déteste pas, mais je peux pas dire que je l'aime. Non, tu ne l'aimes pas. Tu t'aimes à toi, donc tu aimes le sentiment qu'il te procure, mais tu n'aimes pas le bébé. Par contre, quand ce bébé il va grandir, et que ce bébé il va commencer à te faire des galères, et des nuits, et des jours, etc., et que c'est là que tu vas l'aimer, quand tu vas faire un effort pour cet enfant, c'est là que tu vas commencer à l'aimer. Parce que la Torah te dit que tu peux pas aimer quelqu'un si tu fais pas un effort pour lui.
Et lui changer la couche, c'est un
quoi?
Ça, il y a tout le reste.
Ah, mais c'est vrai.
C'est bien que si tu apprends à marcher.
Pas faire finalement n'importe qui.
Si tu apprends à marcher.
Bon, très bien. C'est là que tu commences à l'aimer.
Personnellement, je sais que.
Si tu apprends à marcher.
Oui.
Le surveiller quand il se baigne.
Exactement.
Derrière lui. T'as peur pour lui, donc c'est là que tu l'apprends.
C'est là que t'apprends à l'aimer. Exactement. C'est la même chose. C'est la même chose. Lorsque tu vois le jeune homme avec la jeune fille, je vous parle, vous n'êtes pas en âge de vous marier, mais vous avez des enfants qui arriveront en âge de se marier. Lorsque tu vois le jeune homme avec la jeune fille, lorsqu'ils sont là, qu'ils se font beau les uns les autres pour aller sortir au restaurant ou je ne sais où ensemble, c'est pas ça l'amour. Ça, il a envie de sortir. Ça, c'est une copine, ça. C'est pas une femme, ça. Oui, ça veut dire que non, c'est pas plaire aux autres. C'est souvent être une personne. Je veux être une personne qui plaît aux autres, mais ça veut dire qu'en vérité, ça pouvait être Madame A, Madame B ou Madame C, c'est la même chose. C'est pas ça l'amour. C'est quoi l'amour? C'est quand il y a un engagement. Dès qu'il y a un engagement, là on peut commencer à parler d'amour. Quand il y a un engagement et que je m'engage envers une personne, que j'ai envie de lui donner. Là on peut commencer à parler d'amour. Et ça c'est un sentiment qui
promet.
Mais c'est progressif, ça prend une vie.
Non,
pas du tout. C'est un travail d'une vie, ça. Ça apprendre à aimer, c'est un travail d'une vie. Oui. C'est un travail d'une vie, d'accord? Voilà. Alors maintenant, on va appliquer ça par rapport à Dieu. Parce que mon but, évidemment, c'était de me parler de ça par rapport à Dieu. Oui, vous avez une question?
Non, j'avais un raisonnement par l'absurde.
D'accord.
On est dans les raisonnements. Et donc, si on aime quelqu'un, c'est parce qu'il y a une attirance, on s'aime soi, etc. Donc, bilan d'affaires. Quand deux jeunes se rencontrent, on va faire une rencontre. Il faut se mettre avec quelqu'un qu'on n'aime pas.
Non, j'ai pas dit ça.
Ah, bah si.
Non.
Je fais un raisonnement par l'absurde. Écoutez-moi, on va aller jusqu'au bout du raisonnement. Je vais me mettre avec quelqu'un que je n'aime pas. Comme ça, je n'ai pas de sentiment
non.
Égoïste.
Parce que.
Et je vais peut-être apprendre à l'aimer.
Je vais chercher quelqu'un, je vais vous dire quelque chose. Je vais chercher quelqu'un vers lequel j'ai une attirance. Voilà. Et vers lequel j'ai un. Attendez, c'est pas fini. Et vers lequel j'ai un sentiment qu'ensemble on peut construire.
Voilà.
Il y a les deux choses.
Donc, il est important quand même ce sentiment.
Évidemment qu'il est important. Mais c'est pas de l'amour. Mais c'est pas de l'amour. Non. Ça, c'est pas de l'amour. Ça veut dire que je peux dire que je vais être attiré vers une personne et que je vais décider, je sens qu'on peut construire ensemble. Très bien. Donc on peut se projeter, on peut comprendre que c'est pour nous, on peut ressentir. Mais je peux pas appeler ça de l'amour encore. C'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour. L'amour va venir quand on va commencer à avoir les vrais problèmes et qu'on va commencer à chacun. Vous savez, c'est moi je le dis aux jeunes hommes qui se marient. Je les forme. Je leur dis, je vous préviens, les premiers mois après le mariage vont être les plus durs.
Pourquoi?
Hein?
Bah, mais quoi?
Non, parce que tant que t'es jeune homme, tu sors avec ta cala, tu sors. Bon, tu sors, tu vas sortir 3h, 4h, 5h, elle te prend la tête. Tu rentres chez toi, elle rentre chez elle, basta.
Oui.
Mais là, c'est fini, là. C'est-à-dire que là, maintenant, vous allez vivre ensemble. Et là, maintenant, chacun devra donner pour l'autre parce que vous n'avez pas la même façon de vivre. C'est-à-dire, un jeune homme, c'est très égoïste, un jeune homme. Ceux qui ont déjà mal à la maison savent de quoi je parle. Un jeune homme, c'est très égoïste. C'est-à-dire qu'il n'en a que pour son compte. Il n'en a pour personne. Et quand il va se marier, qu'il va devoir apprendre, à donner une partie de sa personne et quelque part laisser une partie de sa personne, c'est très dur. C'est très difficile, c'est pour ça que les premiers mois, c'est les mois les plus difficiles. C'est les mois dans lesquels chacun doit apprendre à donner à l'autre. Difficile, c'est un grand mot, difficile. D'accord?
Quoi? C'est ce qu'a dit la
femme. C'est un grand
mot. C'est comme une place assiégée. Les gens qui sont dehors vont rentrer, ceux qui sont dedans vont sortir.
Prends cette image, on peut voir cette image. Azeh Shalom. Ok. Alors, Ubaze Yuvan, allez, rabotez, page 218. Maintenant, on va appliquer ça par rapport à Dieu. L'introduction était un peu longue, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que maintenant, on va appliquer ça par rapport à Dieu. Lorsque je dis que j'aime Dieu, ça veut dire quoi, j'aime Dieu? Est-ce que je peux dire, quand je démarre à l'âge de 13 ans, ma bar mitzvah, est-ce que je peux dire que j'aime Dieu? Non. Je pense que c'est difficile de dire que j'aime Dieu. Je le connais pas. J'ai rien fait pour lui. Par contre, lorsque, par exemple, va arriver un lundi soir, que je suis fatigué de la journée, Ah, j'avais pas envie d'aller au cours, je préférais rester à la maison, je sais pas ce qu'il y a ce soir. D'accord? Et j'ai fait un effort, je suis quand même venu au cours de Torah. Ça, c'est un effort. Donc là, je commence à montrer que j'aime Dieu. Je dis, voilà, tu vois Dieu. Moi, la vérité, si je m'aime à moi-même, parce que c'est celui que j'aime le plus, je serais resté à la maison. J'ai fait un, je sais pas ce qu'il y a des images de foot, c'est ça? David, il va nous dire, c'est, il y a rien, d'accord? D'accord? Voilà. Bon, j'aurais pu rester à la maison, pantouflard. D'accord? J'ai fait un effort, je suis venu. Là, je peux commencer à dire que j'aime Dieu. Alors, t'as celui qui le fait par la crainte.
C'est ça, ouais.
Il dit, j'ai peur de pas venir parce que sinon, Dieu, il va dire, ah, t'es pas venu, pack!
Prends-moi la gueule.
Ah ouais.
Bon, mais
je te donne là ce que tu fais.
Voilà. Mais on n'est pas obligé d'arriver à ça. Il faut prendre l'amour aussi. C'est quoi l'amour? Si je dis voilà, écoute Dieu, Hachem, moi je voulais pas aller au cours, mais comme je sais que c'est important pour toi, alors moi je viens au cours de Torah. Là, tu dis, là tu vas montrer que tu m'aimes, tu vas montrer que tu as fait un effort pour moi. C'est pas le geste qui compte. Ce qui compte, c'est que tu as montré que tu as mis de côté une partie de toi pour Akadosh Baruch Hu. Exactement comme dans un couple, exactement comme pour des enfants. Ça veut dire que des fois, on peut donner quelque chose à une personne, mais il sent pas qu'on l'aime. Et comme un mari va dire à sa femme, va dire, mais attends, pourquoi ma femme me dit que je l'aime pas? Je l'amène 4 fois par an en vacances, et je lui amène des cadeaux, etc. Je dis, oui, mais ça te coûte rien, ça. Ça te coûte rien. Tu, je sens pas que tu te donnes quelque chose de toi pour moi. Ah, quand même, hein. Ça change rien? Je dis, bon, t'as payé. Très bien, t'as payé. T'es parti en vacances, tu m'as amené avec. Mais qu'est-ce que t'as donné? Qu'est-ce que t'as donné de toi? C'est difficile. On n'a pas envie de donner de soi.
Donc, okay. Faut savoir si facile pour valoriser l'autre.
Obligé. J'ai pas obligé de dire, c'est pas, je veux pas chercher à m'effacer. Automatiquement. Je veux pas chercher à m'effacer, on cherche pas à s'effacer. Mais automatiquement, en donnant à l'autre, automatiquement, je vais être obligé quelque part d'enlever une partie de moi-même. Ok. Alors maintenant, on va prendre la page 218, on va avancer un peu dans les mots. Ou Bazei, ou Van Etev, avec ça, on va comprendre. Avec tout ce qu'on a expliqué, on va comprendre. Had et Trilou, Rimou, Nikraim, Beshem, Gad, Finder, Machal. On va comprendre pourquoi l'amour et la crainte de Dieu sont appelés des ailes. Des ailes. Oui, des ailes. Pourquoi? Pourquoi on appelle des ailes? Quel rapport avec les ailes? D'accord? Comment fonctionne un oiseau? D'abord, de quoi est composé un oiseau? Qu'est-ce qu'il y a dans un oiseau?
Des pattes, des ailes, un cerveau.
Il y a beaucoup de choses. Il y a des pattes, il y a un corps, il y a beaucoup d'organes, etc. Et il y a des ailes.
Il y a des plumes. Okay.
Alors attendez. Comment fonctionnent les ailes? Comment ça marche? Dès qu'il lève les ailes, ça y est, tout de suite, il est comme ça, il vole.
Ah,
donc, attendez, c'est intéressant. Donc, comment il doit faire pour voler avec les ailes? Comment il crée la poussée?
Avec ses pattes.
Donc, non, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, les pattes, c'est pour donner un coup. Mais après, non, je comprends. Mais comment il vole? Très bien, non. Ça, les ailes lui permettent de s'appuyer. D'accord, mais comment il s'envole?
Il s'appuie sur les pieds.
Il bat des ailes.
Oui, d'accord, oui.
D'accord. Il bat des ailes, et le fait qu'il bat des ailes, ça le fait décoller. C'est exactement la même chose que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Avec Akadosh Baruch Hu, nous avons, si vous voulez, ce battement d'ailes. C'est quoi ce battement d'ailes? Ce battement d'ailes, ça veut dire que on est constamment en train de faire des allers-retours avec Dieu. Ça veut dire, d'un côté, je suis dans la prière, après, je suis dans les affaires prières, affaires prières. Et il y a beaucoup de battements d'ailes, c'est des battements d'ailes. Mais c'est ces battements d'ailes qui font que ça décolle. Parce que celui qui reste bloqué que dans ses affaires, il aime que ses affaires, que ce objet matériel, et qu'il n'aime pas Akadosh Baruch Hu, on lui dit, tu sais comme tu es toi? Toi, tu es exactement comme un oiseau qui n'a jamais levé ses ailes. Il est sur la branche, il est là, il a des pieds, il a un corps, il a tout fait. Il a fait les mitzvot, il a tout fait. Mais comme dit la chanson, petit oiseau, si tu n'as pas d'ailes,
tu peux pas voler.
Hein? C'est, n'est-ce pas? Petit oiseau, si tu n'as pas d'ailes.
Tu ne
peux pas voler. N'est-ce pas? C'est exactement ça. Pourquoi? Parce que si l'oiseau, il a pas d'ailes, il n'utilise pas ses ailes, il ne peut pas voler. Pourtant, peut-être les ailes, il les a. Mais si tu ne les utilises pas, tu ne peux pas voler. Alors, dis-la de Morazaken, c'est exactement la même chose.
Et les autruches qui ne peuvent pas voler.
La même chose par rapport à l'homme. L'homme, c'est comme un oiseau. Ça veut dire qu'il fait des mitzvot, il a des pieds, il a tout ce que tu veux. Mais il a les ailes. C'est quoi les ailes? Il y a deux ailes. Il faut toujours deux ailes, c'est le minimum.
Bravo.
Après, il peut avoir... Mais normalement, c'est deux ailes. N'est-ce pas? Prenons tout le... Il y a deux ailes. Une à droite, une à gauche. Pourquoi deux ailes? Spirituellement, les deux ailes, il y a une qui représente l'amour, la droite, et une qui représente la crainte. Parce que dans toute relation pour décoller, il faut toujours un double sentiment.
Binôme.
Un sentiment d'amour, un sentiment de crainte. Et ça, c'est applicable partout.
Du binôme.
Ça veut dire que dans une relation que vous avez avec votre femme, avec vos enfants, avec votre travail, tout ce que vous voulez, avec Dieu... Dans toute relation, pour que ça marche, il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait une partie amour, une partie crainte. S'il y a l'un sans l'autre, ça marche pas. Ça veut dire que si, par exemple, la seule relation que j'ai, c'est un sentiment de crainte, dans ce cas-là, je suis pas dedans. J'ai peur de quelqu'un, mais moi, je suis pas attaché à lui. J'ai peur de lui, mais je suis pas attaché à lui. D'un autre côté, si j'ai que de l'amour, vous savez ce qu'est le problème de l'amour ? Le problème de l'amour, c'est que parfois, quand on aime quelqu'un, on s'approche trop de lui, et quand on s'approche trop d'une personne, on se permet trop. Comment ça se fait que les gens se permettent avec leur femme de dire des choses qu'ils ne seraient jamais permis avec d'autres personnes ? Comment ça se fait ? Ou avec nos enfants ? Ou avec des fois des employés qu'on va s'approcher, etc. Pourquoi plus on est proche de quelqu'un, et plus on se permet de faire des choses, de dire des choses qu'on n'aurait jamais dit. Parce que la proximité, c'est bien, mais d'un autre côté, trop de proximité tue la proximité.
Ah, mais c'est un pote.
D'accord ? Non, ça marche pas comme ça.
Ça marche pas.
Il faut le savoir, ça. Votre femme, c'est pas votre pote.
Ah non, c'est pas ton pote. Hein. C'est ce que je vous disais à dire à mon fils.
Mais... Ah bah non. C'est très important,
ça.
Non, la même chose.
Même ton fils, c'est pareil.
Votre enfant, c'est pas votre pote.
Bien sûr. Alors,
parce que voilà, parce que dès qu'on rentre dans l'idée pote, ouais, ça veut dire t'es mon ami. Le problème, c'est que comme c'est quelqu'un avec qui t'es très proche, donc il se permet, et quand on se permet trop, c'est la catastrophe. T'es obligé d'avoir de l'autre côté la deuxième aile qui redresse, qui est l'aile de la crainte. C'est quoi la crainte ? La crainte, c'est savoir mettre les distances quand il faut. La crainte, c'est savoir ne pas vouloir décevoir, comme tu as dit, Michael, comme on va voir au Bezrat Hashem, chapitre 41. Très important d'avoir les deux sentiments. Et l'un sans l'autre ne marche pas. Alors après, on verra dans chapitre 41, la question, il faut commencer par quoi ? Lequel est prioritaire ? Est-ce que d'abord je développe la crainte qui amènera l'amour, ou l'amour qui amènera la crainte ? Ça, on verra plus tard les détails. Mais il faut savoir, deux secondes, que dans toute relation humaine, obligatoirement, il faut avoir une partie amour et une partie crainte. Sinon, ça se casse la figure. On peut pas que aimer sans craindre, ou que craindre sans aimer. Ça, quand même, on voit des fois des gens comme ça qui se permettent, et ça explose. Bien sûr, ça explose. Quand tu te permets trop, ça explose. Il faut savoir que ta femme n'est pas ton copain. Et tu n'es pas son copain non plus. C'est pas un copain. C'est-à-dire que c'est ta femme, donc tu dois la respecter. Pourquoi on parle de respecter ? Le respect, c'est un sentiment de crainte. Le respect, c'est pas un sentiment d'amour. Mais de l'autre côté, celui qui a que du respect, que de la crainte et qui n'a pas d'amour, c'est pas bon non plus. Donc il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'attachement avec la personne. Ahava ve'ira. Et ça, c'est les deux ailes. De la même façon que vous prenez un avion, vous prenez un oiseau, s'il a une aile qui se casse, qu'est-ce qui se passe ?
Il tombe.
D'accord ? C'est pas possible, il ne tient pas. Il peut essayer de tenir un petit peu, et encore, c'est presque impossible. Il peut essayer de tenir un petit peu le temps d'atterrir, mais normalement, c'est impossible, il ne peut pas. Parce qu'il n'a pas de portance. Il lui faut une portance. Il faut un côté et un autre côté. Exactement la même chose. En toute relation qu'on a, dès que tu veux décoller, il faut un sentiment d'amour, un sentiment. Alors après, tu peux être un oiseau sans aile. C'est-à-dire, tu peux dire, bah écoute, moi je m'attache avec personne. Moi ni j'ai peur, ni j'aime personne. Ok, tu restes au sol.
Rien.
Celui-là, il reste au sol. Il n'a pas de problème avec personne, lui. Lui reste au sol. Ok ?
Mais il existe vraiment ?
Mais.
Ça n'existe pas,
je crois. Je
crois pas que ça existe.
Oui, ça existe.
En plus, je ne vole pas.
Non, mais il parle de personnes qui sont comme ça.
Ah,
il y en a. Je suis sûr qu'il y en a. Il y en a. T'as des gens qui disent, moi j'aime personne, je crains personne, moi je suis fou.
Ah voilà, si tu es fou, c'est autre chose.
Il fait ce qu'il veut, il tourne partout, il n'a rien à faire de personne.
Il a peur de rien.
Moi, ni j'aime, ni j'ai peur.
100 fois ni loi.
Ça existe. 100 fois ni loi. Je connais personne, j'aime personne.
C'est pas un bon aussi.
Ça existe. Mais celui-là, il n'a pas d'amour, il n'a pas de crainte, il n'a pas de relation avec quelqu'un. Ça veut dire qu'il n'a aucune relation avec personne. C'est pas bon non plus. Et donc c'est la même chose par rapport à Kadosh Baruch Hu. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, on peut être un juif sans aile.
Un juif sans aile.
Ah oui. C'est quoi un juif sans aile ? C'est un juif.
Sans...
C'est un juif qui fait des mitzvot, qui a un corps, etc. Mais qui n'a jamais eu aucune relation avec Dieu. Ça veut dire qu'il parle pas avec Dieu. Il dit, moi je fais les mitzvot, mais il parle pas avec Dieu. Ni un sentiment d'amour, ni un sentiment de crainte. C'est un bon juif, mais il a pas d'aile, ce juif-là. D'un autre côté. Ce que dit le Zohar, le Zohar te dit que lorsque tu commences à avoir l'amour et la crainte de la Kadosh Baruch Hu et que l'un ne va pas sans l'autre, automatiquement, tu as des ailes. Et d'ailleurs, ici, regardez ce qu'il cite. Il dit, Ukumo Shekatav, Arav Rahim Vital Zichrono Livracha. Comme a écrit, je suis au milieu de la page 218, le Rav Rahim Vital de mémoire béni. Béchar Aïchounim Perek Yudalef. Bon, c'est la référence. Shaknafaim Be'of Em Zroot Adam. Rabbi Rahim Vital écrit que les ailes de l'oiseau sont comparées aux bras de l'homme. C'est intéressant. Parce que le Zohar nous dit que les bras de l'homme, on a un bras droit et on a un bras gauche. Pourquoi on a un bras droit, on a un bras gauche ? Pourquoi tu n'as pas fait un bras avant, un bras derrière ? Pourquoi tout ce que tu as fait, l'équilibre que tu as fait dans l'homme, c'est toujours droite-gauche ? Il n'y a pas un centre, il n'y a pas un petit Macron là, en marche, ni droite ni gauche ? Pourquoi tout est droite et gauche ?
Ça change
toujours. Je sais pas quel mérite il a, mais il a une demoiselle. Bon. Oui, merci. Pourquoi est droite et gauche? Parce que le Zohar te dit la chose suivante, et c'est pour ça, c'est la réponse pour te montrer que c'est pas si simple. Le Zohar te dit la chose suivante. Il te dit dans toute relation qu'il y a, t'es obligé d'avoir droite et gauche. Pourquoi t'as un bras droit et un bras gauche? Parce que la Gemara te dit comme ça. Le bras droit, il sert à rapprocher. D'accord? Le bras gauche, il sert à éloigner. L'œil droit sert à voir les bonnes choses. L'œil gauche sert à faire attention à ce que tu dois pas voir. L'oreille droite, c'est une image évidemment. L'oreille droite sert à faire attention à ce que tu écoutes. L'oreille gauche sert à faire attention à ce qu'il faut pas écouter. Narine droite, narine gauche. D'accord? Et la bouche? Combien de bouches on a?
Une seule.
Parce que la bouche, on te dit, il y a que des bonnes paroles.
On en avait deux, j'aurais plus de
bêtises. On en perd deux bouches. Bravo, deux bouches.
Deux fois plus de bêtises.
Bah oui. Donc, si j'ai deux yeux, deux oreilles, deux narines, pourquoi j'ai pas deux narines, deux mains, deux pieds, tous deux? La bouche, une seule. Pourquoi? Parce que la bouche, dans la bouche, il n'y a que des bonnes paroles qui sortent. Ça ne laisse pas sortir les mauvaises paroles. C'est pas comme l'œil, que l'œil, bon, il y a les deux côtés. Alors je reprends maintenant, par rapport justement à ce que dit le Rabbi Chaim Vital. Il te dit, les ailes de l'oiseau, c'est comparé à quoi? Au bras de l'homme. Pourquoi il y a deux ailes? C'est de la même façon que l'homme a deux bras. Pourquoi l'homme a deux bras? Un droit, un gauche. Le droit représente l'amour, d'accord? Le gauche représente la crainte, le fait de repousser. Et d'ailleurs, il ramène ici Tikkunim. C'est quoi Tikkunim? Tikkunim, c'est Tikkuné Zohar. Tikkuné Zohar, là-bas, il dit la chose suivante. Il y a un passou, vous connaissez certainement ce passou, qui parle d'une personne, il marche dans la rue et il voit des oiseaux et il voit une mère qui est en train de couver, d'accord, des poussins. À Emre Vetzet Alephrim. Quelle est la mitzvah? Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? Vous connaissez la mitzvah?
On doit renvoyer la mère,
d'accord? On doit renvoyer la mère et prendre les petits. Ça veut dire quoi?
Les œufs ou les petits?
Les œufs ou les petits? Là-bas, la Torah parle de Ephrochim.
Ah, excusez-moi, juste une petite question à propos de ça. Je vous reparenthèse, on la referme.
Attendez, je termine deux secondes. Alors, non, avec plaisir. Mais, juste après. Donc, ça veut dire quoi? De quoi on parle? On te dit, la mère, elle couve, elle est en train de couver les oiseaux. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu renvoies la mère. Veta banin, tikarlach, et après, tu prends les enfants pour toi. Et bien, vous allez voir comment va expliquer le Zohar. Le Zohar dit la chose suivante. Le Zohar dit, lorsque tu as, on va lire ensemble comment le Zohar explique. Je vais pas en dire plus. On va lire juste après, on ouvre la parenthèse. Ou vetikunim piresh. Dans les tikunim, ça c'est le Zohar, c'est expliqué. Shaoskim betora ou mitzvah bitrilo chimu. Que ceux qui se consacrent à l'étude de la Torah et aux mitzvot avec crainte et amour, nikraim banim, sont appelés les enfants. Veim lav, et sinon, nikraim efrochim, ils sont appelés des poussins, d'accord? Des lo yachla les porcha, qui ne peuvent pas voler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en vérité, ce passou qui te dit tu renvoies la mère et tu prends les enfants, c'est un message pour te dire la chose suivante. Pour te dire que le but de la Torah et des mitzvot, c'est quoi? C'est pas de rester bloqué dans le nid. Voilà, le zoo qui reste bloqué dans le nid, celui qui dit j'ai fait mes mitzvot, mais je reste bloqué. Moi, je décolle pas. La Torah te dit non! Shaleach te shaleach et ta'em, ve'et abanim tikachlach. La Torah te dit la chose suivante. La Torah te dit, il faut faire en sorte de revenir vers Akadosh Baruch Hu et de voler vers Akadosh Baruch Hu. Évidemment, c'est une image tout ça. Hein. C'est une image comme le Zohar explique. Ça, c'est pour nous montrer encore une fois que le plus important dans la Torah, c'est quoi? Le plus important dans la Torah maintenant, c'est la kavana, l'amour et la crainte d'Akadosh Baruch Hu. En fait, vous comprenez, c'est autre chose qu'on est en train de parler ce soir. C'est-à-dire que là, on te dit, l'action ne suffit plus. Il faut essayer de développer une relation d'amour, une relation de crainte. On va développer encore, mais je crois que vous avez une question ou une parenthèse.
Non, c'est juste pour les œufs.
Oui.
Personne ne m'a répondu. C'est-à-dire, l'histoire des œufs, c'est-à-dire, je passe dans la rue, je vois un nid, est-ce que j'ai l'obligation d'aller prendre des œufs? Ou est-ce que parce que j'ai besoin de me nourrir, me substanter, par exemple, et je vais prélever les œufs?
C'est un débat.
Ah, d'accord. Je pensais que personne ne répond, là. Enfin, personne ne répond. Il y a plusieurs
réponses. Si, plusieurs réponses. Normalement, il faut renvoyer la mère à prendre les enfants. Mais c'est bien, moi j'ai pas envie de prendre les enfants, ils sont sales, c'est Paris, les Parisiens que je vais faire avec. Hein.
Non mais par exemple dans mon balcon, il y avait des pigeons qui ont pondu, il y avait des œufs.
Il y avait la mer?
Oui, je l'ai fait fuir.
Ah bien, vous avez mis ça. Vous l'avez fait fuir et vous avez fait quoi avec les oiseaux?
Pas les oiseaux, les œufs.
Vous avez fait quoi?
Pour pas qu'ils se développent, je les ai jetés, je les ai détruits.
Ah ben non, c'est pas le but ça.
Je vais les faire cuire et manger.
Ah, on n'est pas là pour tuer les oiseaux.
Qui fait les faire avec, hein, les...
Je voulais faire avec. Normalement, la mitzvah, c'est de renvoyer. Mais il y a une omelette avec les œufs de Paris.
Les œufs de Paris.
Ah.
Attends, il renvoie la merde. Moi, je dis, mange les œufs.
Non, mais je veux pas qu'ils nichent, je veux pas qu'ils se développent.
Ils seraient pas là s'ils les avaient mangés. C'est
un problème.
Les microbes que ça, ces oiseaux.
Ah, c'est pour se sustenter.
Bien sûr.
D'accord.
Oui.
Je sais pas si dans ton balcon ça marche.
Il faut que ça arrive.
Il faut tomber dessus par hasard.
Il y en a, il y en a.
Par hasard.
Par
oui.
hasard, c'est par hasard.
Enfin, il y a un débat, il y a un débat.
On parle d'amour.
Non, non,
on
parle
de crainte.
Par hasard. Ben si, le hasard répond
à l'épisode concernant les deux enfants de Aaron à Cohen.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont été brûlés par Hachem parce qu'ils ont pris suffisamment de crainte par Hachem?
Évidemment. On a excès d'amour, 100%. C'est ça, oui, c'est ça.
On peut dire ça?
C'est 100%. Ce que dit leur Rey Makadosh. Alors, Chaim HaKadosh, il dit que les enfants d'Aaron, c'était un excès d'amour.
D'accord.
Et tellement ils aimaient Dieu, bah, que du coup, ils voulaient rentrer dans le sein des saints, alors que c'était pas autorisé à y rentrer. Parce qu'il y avait que de l'amour sans crainte.
C'est ça. Donc, on est dans ce cas-là.
Ah, ouais. Super.
Et c'est la même chose. C'est comme dans une relation avec une personne. Quand t'as trop d'amour, on écrase la personne, et on fait plus ce que la personne veut, on fait ce que moi je veux. Et c'est pas bon, ça. La crainte te permet d'équilibrer, de contrebalancer. Très important, c'est très important. Mais je suis sûr que ce que je vous dis, vous l'avez déjà vécu dans votre vie. C'est évident, ça. C'est des choses qu'on a vécues dans notre vie. Il y a des fois des cas dans lesquels tu sens que t'es parti trop loin ou t'es pas allé assez loin, etc. Il faut constamment équilibrer. Ahava ve'ira, l'amour à la crainte. Ça, c'est un... Non, mais ça... Vous savez qu'il y a une tendance, ces dernières années chez les enfants, que les enfants, ils veulent se sentir potes des parents. C'est une tendance. D'accord ? C'est pas mal d'années que c'est ça. C'est important de contrer cette tendance. Non, mais c'est très important. En tout cas, de ne pas cautionner cette tendance avec les enfants. Exactement. Par exemple, ça fait quelques décennies, ça faisait in, tu vois, d'appeler les parents par leur prénom. D'abord, la Torah l'interdit. Pourquoi la Torah l'interdit ? Oui, la Torah l'interdit. J'ai pas le droit d'appeler ton père par son prénom. Pourquoi ? Parce que le fait, quand tu l'appelles par son prénom, ça veut dire que tu enlèves une barrière. Quand tu l'appelles pas par son prénom, par papa, ça crée une barrière. Mais une bonne barrière, une barrière de crainte. Il faut la crainte. C'est obligé. Il y a des choses comme ça, des choses comme ça que la Torah nous met. Et pareil par rapport à la femme, etc. Ça, on pourrait rentrer aussi sur le de la Nida, par exemple. C'est aussi ça, le Nida. Il y a toujours un amour-crainte. Éloignement, séparation, et après, on s'approche. Toujours. On est constamment obligé de contrebalancer. Parce que si on va que d'un côté, si on va dans l'excès, ça s'explose. Ça casse la figure. D'accord. Alors, il y avait d'autres questions ? Joseph, vous êtes bien calme aujourd'hui.
Non, mais j'avais des choses à dire, mais...
Il a vu un peu.
Ah.
Non,
là, j'ai pas d'accord.
Non, mais je peux dire quelque chose, là.
Ah. Non, mais c'est pas obligé de parler.
Autrement dit...
Garde pour lundi.
Non, mais... Autrement dit... Moi, je vis... J'ai vu dans un milieu, si vous voulez, où il y avait de l'amour entre parenthèses. On dit qu'on aime, mais c'est juste le mot amour. Et d'autre côté, il y avait... De l'autre côté, dans le couple, il y avait la crainte... Si tu veux, de déplaire.
Mais ça, s'il n'y a que ça, on se casse la figure.
Donc, si tu veux, les deux, le couple entier, il vit dans un compromis permanent. C'est un compromis. D'ailleurs, ça peut se casser la gueule en 30
ans. Non. Si c'est un compromis, c'est bien les compromis.
Ils se sont mis d'accord pour ne pas être en désaccord.
D'accord.
Ça,
c'est la crainte.
On décide. Mais on se met d'accord, surtout on ne va pas être en désaccord. C'est tacite comme.
Ça, c'est la crainte.
Mais bon, alors il y a un moment donné, ce compromis, il
explose. Oui.
Donc là, le divorce, forcément, au bout.
Oui.
C'est d'accord. Mais il y en a qui vivent des vies entières. Mais des vies. C'est-à-dire qu'ils connaissent à 18, 19 ans, jusqu'à la retraite, ils ont élevé des enfants, des petits-enfants et tout, et ils ont vécu dans le compromis. Et quand tu questionnes ces femmes, par exemple, c'est surtout des femmes. Les mecs, à la limite, ils ont fait leur vie, tu vois, eux, c'était. Le pacha, quoi, le patron, tu vois, le patron, t'as mis trop de sel, t'as pas mis assez de sel, c'est pas que pas comme maman, c'est, enfin, c'est toujours, mais la femme, jamais un mot, jamais.
Dans le vécu.
Jamais rien.
C'était quelle époque?
Mais non, mais c'est.
Joseph, c'est fini, ça?
Non, ça existe encore aujourd'hui, qu'est-ce que tu crois? Rien n'a changé. La transmission.
En Iran, ça existe.
C'est pour la jeunesse, vous n'avez pas connu le bon temps.
Il y a que le bon temps, ça.
Donc c'est des compromis, pas possible, quoi.
Il y a que Johnny Walker qui a pas changé, mais.
D'accord.
Les femmes, elles ont changé. Hein.
Non, les femmes, elles n'ont pas changé. Les mecs non plus, hein, je te dis. De toute façon, on ne doit pas demander aux femmes de changer, ni aux mecs de changer.
Tout ont changé.
Il y a beaucoup de
choses. Mais dans les deux sens.
Il y a des bonnes choses qui ont changé, et des mauvaises choses se sont arrêtées.
Je veux bien.
Tu vois pas,
il faut une relation avec une personne ne peut pas être basée que sur la crainte. La crainte de décevoir, la crainte que...
D'accord.
Il faut de l'amour.
D'accord.
Il faut les deux. Ça se construit, ça. Il n'y a pas de secret.
J'ai d'accord, mais on a besoin, dans cette relation d'amour, de se rassurer, d'être assuré.
Oui.
Alors, quand on me dit ça, je dis, tu vas acheter avec ça.
Mais il faut des barrières, c'est très important. Des barrières.
Oui, c'est ça, il faut se rassurer.
C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre.
Il y a
des barrières. Ok. Non, donc je disais par rapport aux enfants, faire attention, très attention à ça. Faire bien attention que, d'abord, les enfants, on les aime, et ils nous aiment, évidemment, c'est une très bonne chose, d'accord ? Mais il faut faire attention à ce qui est, en parallèle, un sentiment de, pas de distance, mais de crainte, dans le sens que chacun est à sa place. Il y a un fils et il y a un père. Il y a une structure dans la famille. Parce que sinon, s'il n'y a que de l'amour, qu'est-ce qui se passe le jour où le père, il donne un ordre, une instruction à l'enfant, que l'enfant n'écoute pas ? Il n'écoute pas, il n'a pas envie d'écouter, qu'est-ce qui se passe ? S'il n'y a pas de crainte, c'est la catastrophe. C'est frontal.
Il y a une haine intrinsèque. Nous sommes tous des oiseaux.
Oui, drôle d'oiseaux.
Il y a l'oiseau dans le cul, il y a beaucoup d'expressions comme ça.
Ce qui nous intéresse dans l'oiseau, dans le cours d'aujourd'hui, c'est l'aile, les ailes.
J'ai compris bien.
Parce que regardez, vous savez pourquoi il utilise les ailes de l'oiseau ? Parce que prenez un oiseau en vérité, il peut avoir une vie entière sans bouger ses ailes. Ça veut dire que les ailes, c'est une option qu'il y a chez lui. Et je pense que c'est, d'ailleurs, on le verra plus tard, ça. Que c'est la raison pour laquelle il a cet exemple de l'aile, de l'oiseau. Parce que de la même façon, un juif, il peut avoir une vie entière qui est pleine avec Dieu. C'est-à-dire qu'il fait les mitzvot, etc. sans battre des ailes. Et il est vivant. L'oiseau qui n'a pas battu ses ailes. Imaginez un oiseau, vous avez coupé les ailes. Il arrête de vivre.
Non, il ne peut pas manger.
Hein ?
Il ne peut pas manger.
Si on lui donne à manger.
Ah, si tu lui donnes à manger, c'est autre chose.
Voilà. Donc il peut.
Bah, il n'a pas la main.
Il ne meurt pas.
Mais il perd sa vitalité.
Il ne meurt pas.
Les oiseaux en cage, ils
ne meurent pas. D'accord ? Tu comprends ? C'est-à-dire que l'aile, c'est une option. C'est une option, mais quand on réfléchit, un oiseau sans aile, c'est comme du mien, un avion sans aile. Dans un avion, il y a des chaises, on peut s'asseoir. Mais le but, c'est pas de s'asseoir. Il peut avoir un moteur, il peut avoir tout ce que tu veux.
Finalement, quand on fait les mises de vote par habitude,
c'est un repas.
Quand on fait le par habitude, on est comme un oiseau qui n'a pas déployé les ailes. Exactement. Quand tu fais les mises de vote sans cabana, c'est comme si tu es rentré dans l'avion. Il y a un avion, il y a un moteur, il y a un cockpit,
a
tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas d'aile.
On vient en métro le lundi soir, on boit un coup, Youssef.
Mais ça, des avions de.
On se pose sur le canapé.
D'exposition. Non, pour tester. Allez, simulateur. Simulateur.
Bonne guerre.
Voilà. On continue.
Et on prend ça, rien, on prend.
Les Himlav, Nikraim, Efrocha de la Pachim. Alors, on va tourner la page, page 220.
220, oui.
En bas de la page, j'ai sauté la note. Hein. Qui Kemo ?
La flamme.
En bas de la page 220, après la note. Qui Kemo ? Shegat Sheganfea Of Enam Ikara Of. De la même façon que les ailes de l'oiseau ne sont pas l'essentiel du corps de l'oiseau. Ça veut dire, qu'est-ce qui forme le corps de l'oiseau ? C'est pas les ailes.
C'est son corps.
Qu'est-ce qui forme le corps ? C'est son corps.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'il a un corps. Ok ? La vitalité de l'oiseau ne dépend pas de ses ailes. Kéditnan, comme c'est enseigné dans la Mishnah, dans les lois de Tréfot, Nitlu Agapé Akshera. Vous savez que quand on fait la shrita d'un animal, l'animal doit être kasher. C'est de quoi kasher ? Ça veut dire que si quand on fait la shrita, on se rend compte qu'il lui manquait un organe qui était nécessaire pour sa vie et qu'il n'avait pas au moins 6 mois, en général 12 mois de vie. Alors qu'il y a un organe, par exemple, pour ça, on regarde si quand vous achetez de la viande, on dit, on va voir est-ce que la viande était glatte. C'est quoi glatte ?
Les ailes sont pas classées.
Non, ça n'a rien à voir.
C'est le poumon.
Glatte, c'est les poumons. Parce qu'on va voir les poumons, et on va voir à quel point les poumons sont lisses. Plus les poumons sont lisses, plus ça veut dire qu'il est en bonne santé.
Même pour le poulet ?
Non, le poulet, c'est différent. Le poulet, il y a d'autres choses. Et on va voir jusqu'à quel point il est lisse. Et quand on vous dit glatte, c'est un mot yiddish. Glatte, ça veut dire lisse. D'accord ? Oui, en hébreu, on dit chalak. Glat et chalak, en hébreu, c'est la même chose. Chalak, ça veut dire lisse. C'est ça, lisse. Maintenant, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est qu'il y a certains cas dans lesquels, on dit, voilà, le cœur de l'animal, les poumons de l'animal, pardon, ils n'étaient pas lisse, mais ils étaient moyennement lisses. Alors là, bon, on va dire ça passe. D'accord ? Ça, c'est bedine. Oui, c'est vrai.
Oui, c'est
maintenant, tu as un sur 100 ou 10 sur 100, ça dépend des productions, que eux sont glattes. Des fois, c'est un sur 100. Qui sont glattes, ça veut dire que les poumons sont parfaitement lisses. Ça dépend des productions. Est-ce qu'il y a des accords? Est-ce que le goyim prend ceux qui sont pas bons, etc. C'est pas si simple que ça. Ça dépend beaucoup de choses. Ça dépend de quelle région en France, si c'est de la France ou de la Pologne, etc. C'est compliqué. Et le reste que tu donnes aux Arabes, et à quel prix tu le prennes? Parce que c'est ça le problème. Parce que si tu dis, on prend ce qui nous intéresse et l'autre on donne. Je dis, non, mais attendez, ça marche pas comme ça. Tu dis, on le donne aux Arabes. Les Arabes disent, attendez, on vous les rachète moins cher. On négocie, tous négocient. Donc c'est pour ça que la viande de galette coûte plus cher. Il n'y a pas de secret. C'est la rareté. Bah oui, ça coûte plus cher.
C'est pas sur une pièce. Hein, c'est des...
Et quand vous allez chez un boucher qui a tout le temps tous les morceaux de viande que vous voulez en viande halak, il faut se poser des questions.
Justement, il y a ce problème. Il y a 40 ans, un boucher qui avait tout. Il y avait des abats. Il savait que chaque semaine, il y avait, je sais pas, 3-4 bêtes qui avaient les porcs qui étaient tués. Donc, il y avait le mec qui avait à volonté des abats. C'est impossible. Donc, sur le coup, après, le mec,
c'est qu'il y a un problème. Ouais. C'est pas possible. La viande halal, tu peux pas en avoir à volonté. À volonté de tous les morceaux que tu veux, n'importe quand dans l'année. C'est pas possible. Ça marche pas. Parce que là, il y a une rareté. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on fait la shrita d'un animal, on doit vérifier qu'il n'y a pas un organe vital qui est malade au point qu'il ne peut pas tenir 6 mois. C'est pour ça qu'on va regarder, est-ce qu'il n'y a pas des trous dans les poumons, est-ce qu'il n'y a pas un trou dans les différents membres, etc. On regarde, on vérifie. Maintenant, il y a une question qui est posée dans le traité de Tréfot. Qu'est-ce qui se passe si on a fait la shrita d'un coq, d'accord, et que le coq, on lui a coupé les ailes avant de faire la shrita? Est-ce que le coq, il est cachère ou il n'est pas cachère?
Il est
cachère. Pourquoi il est cachère? On lui a coupé les ailes, il n'a plus d'ailes. Il n'aura plus jamais d'ailes de sa vie.
C'est pas vital.
Parce que les ailes ne sont pas un organe vital. Les ailes ne font pas partie de son corps et sa vie ne dépend pas de ses ailes. Alors c'est très intéressant parce que, attendez, c'est pour ça que, attendez, c'est juste une seconde, c'est pour ça qu'on prend l'exemple ici des ailes. Parce que, il te dit, finalement, c'est quoi les ailes dans l'oiseau? Les ailes, c'est pas le corps de l'oiseau. C'est une option dans l'oiseau.
C'est pas le écart.
Mais même s'il n'y a pas les ailes, l'oiseau est cachère. Donc si on dit la même chose par rapport aux mitzvot, un juif qui n'a pas d'amour et de crainte, et qui n'a fait les mitzvot sans amour et crainte d'Akadosh Baruch Hu, il est cachère.
Bah oui.
On va pas dire que t'as pas eu d'amour et de crainte, t'as rien fait, ça vaut zéro. Non! Ton oiseau, il est cachère. Il est bon, ton oiseau. Mais il n'a pas décollé. C'est une option. Il y en a qui décollent, il y en a qui décollent pas. Tiens, il n'a pas décollé. Mais d'un autre côté, on comprend qu'un oiseau qui décolle pas, il passe à côté de sa fonction principale. Oui, d'accord, mais concrètement, l'oiseau était en vie. Ça veut dire que quand tu coupes les ailes, son pronostic vital n'est pas engagé. Donc voilà. Alors que tu vas couper un autre membre, là c'est dit compliqué. Ce qu'il dit ici. Kaditna, comme s'enseigné, dans les lois de Tréfot. En bas de la page 220. Nitlo agape a akshera. Si les ailes d'un oiseau ont été retirées, il reste kasher. Veaika. Et l'essentiel, hu rosho vechol gufo. L'essentiel du corps de l'oiseau, c'est quoi? C'est sa tête et son corps. Veaknafaim et les ailes, einam rak meshamshim le rosho vegufo le farchabeon. Les ailes vont seulement l'aider, vont être au service de la tête pour faire voler. Ah, maintenant, le machal, la parabole. Vechel derech machal, voici de la même façon dans l'image, on va expliquer. A Torah ou mitzvot, en ikara yichuda elyon, a l'idée gilouy, ratsonem et galaydem. De la même façon, quand on parle de Torah et mitzvot, c'est quoi l'essentiel d'une Torah et une mitzvot? Pourquoi j'étudie la Torah, pourquoi je fais les mitzvot? Chaque fois que j'étudie la Torah et que je fais les mitzvot, je fais la volonté de Dieu. Et quand je fais la volonté de Dieu, ça c'est l'essentiel. Ça veut dire que j'ai mis les tefillines ce matin. Même si j'ai pas pensé à ce que je faisais, j'ai mis les tefillines. Donc j'ai fait la volonté de Dieu, et ça c'est l'essentiel. Donc c'est pour ça que mon oiseau est déjà cachère. Si j'ai mis les tefillines ce matin sans la kavana, c'est comme si j'avais un oiseau sans ailes. D'accord, mais il y a quand même l'oiseau. Parce que ce qui compte, le corps de l'oiseau, c'est quoi? Le corps de la mitzvah, c'est quoi? C'est le fait que j'ai fait le ratson d'Hachem. J'ai fait la volonté de Dieu, ce que Dieu m'a demandé, je l'ai fait. Point barre. Seulement, va trilou chimou, la crainte et l'amour, eh ma alimotam, le makom shit galebo ratson. Bon. Après, t'as l'amour et la crainte qui vont permettre à Maneshama de s'envoler. Ça, c'est une option, ça. Ça veut dire, ce matin, j'ai mis les tefilines. C'est quoi l'essentiel dans la mise des tefilines? C'est que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Dieu, il m'a dit, Mendi Asouline, tu mettrais les tefilines. Mendi Asouline, il met les tefilines. Après, il y a une option. C'est que si Mendi Asouline, en plus de mettre les tefilines techniquement, il a une kavana, c'est-à-dire, il essaie de penser à ce qu'il faisait, il essaie de développer un sentiment d'amour et de crainte envers Dieu. Alors, dans ce cas-là, Mendi Asouline, il aura une option que non seulement il a fait la volonté de Dieu, ce qui est l'essentiel, ce qui est le corps, d'accord? En plus de ça, son âme va un peu voler. Ça, c'est une option. C'est les ailes de l'oiseau. Donc ça, les ailes, c'est un très bon exemple pour nous montrer comment, d'un côté, c'est complémentaire. C'est-à-dire, c'est pas un élément vital de la mitzvah. Mais d'un autre côté, c'est un élément essentiel. C'est comme un oiseau sans ailes. Un oiseau sans ailes, petit oiseau si tu n'as pas d'ailes. Tu peux pas voler. Vous connaissez le sketch?
Dis-moi.
Ouais.
Non.
Ah.
On dit que.
Ah, fais-lui la chanson, là. Petit oiseau, si tu n'as pas d'ailes. Tu peux pas voler, hein. Vous connaissez pas? Ah, c'est, il est chez vous.
Gad El-Malé. Il peut pas voler. Dis-moi, ce Moshe, à un moment donné, dans sa vie, il a survolé un peu les ailes.
Oui.
C'est quand même.
Oui, mais ça, c'est encore une fois. Parce que, ça, avec l'amour et la crainte, ça. L'amour et la crainte, ça fait décoller.
C'est pâté dans les airs. Un peu comme les mangas.
Ça fait décoller. L'amour et la crainte, ça fait décoller.
C'est un peu comme vous.
Après, ça, non, c'est pas forcément au sens littéral, ça. Faut pas tout comprendre au sens littéral. Il y a un sens allégorique. Ok. On continue. Alors, on va sauter la note, encore une fois. Véiné, page 223. Je saute les notes, hein. C'est pas parce que je les aime pas, c'est parce que les notes, c'est un peu compliqué. J'ai prévenu au début du cours qu'on va essayer de s'arrêter d'abord. Là, en page, c'est la page 223. En fait, j'ai sauté la note. Et la note, elle est en plus petite lettre. Page 223, fin de la note. C'est bon? Alors. Dit la demoraza ken vein et av de trilou chimou em gam ken mitariag amitzvot. Bien que l'amour et la crainte font eux aussi partie des 613 mitzvot. Alors là, c'est intéressant. Parce que tu m'as dit que la mitzvah, c'est le corps. Et que l'amour et la crainte, c'est les ailes. Mais le problème, c'est que aimer et craindre Dieu, c'est aussi une mitzvah. Alors, la mitzvah d'aimer et de craindre Dieu, c'est le corps ou les ailes? Vous comprenez mon problème?
Ouais.
Ça veut dire, d'un côté, tu me dis que la mitzvah, c'est le corps, et qu'il y a des ailes. L'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Mais le problème, c'est que aimer Dieu et craindre Dieu, c'est une mitzvah aussi. Donc, c'est aussi le corps. Alors, c'est le corps ou les ailes?
Donc, c'est pas une option. Alors.
Ah, voilà. C'est la question. Est-ce que c'est une option ou pas? Il te dit, av de trilou chimodemeter mitzvot, afal pikan nikraim gadfim. Néanmoins, ils sont quand même appelés des ailes. Pourquoi ils sont appelés des ailes d'Ilad Morazaken? Liot, ki tach li ta'avoda, yavoda me ahava. Parce que le but de l'amour est de servir Dieu par amour. Et alors, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr que la Torah te donne l'ordre de servir Dieu par amour. Pourquoi? C'est pour te montrer que le but, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu par amour. Pour te dire, tu peux faire les mitzvot sans amour et sans crainte, elles sont kachères tes mitzvot, mais le but, c'est de les faire par amour. On pourrait donner un exemple. Prenez par exemple une locomotive. Locomotive d'un train. Qui fonctionne parfaitement. La locomotive est là, et les wagons sont derrière. Mais les wagons, ils sont pas attachés. Qu'est-ce qui se passe? Les wagons, ils sont là, la locomotive, elle est là. Alors, Rabbi, une fois, dans un Fabringen, il a parlé de ça. Il a raconté quand il était en Italie. Ça, à l'époque, en Italie, c'était, je sais pas si ça a changé beaucoup, mais c'était beaucoup, c'est l'anarchie, c'était la pagaille, etc. Il a raconté une fois, il y avait une histoire qui s'est passée comme ça dans la gare, en Italie. Hein?
Toujours la même chose.
Il y avait une fois une histoire qui s'est passée.
C'est bien, mais...
C'est qu'il y a eu un train qui est parti.
Sans les wagons.
Sans les wagons. Pourquoi? C'est très simple. Parce que lui, le conducteur, non, c'est pas qu'il a pas voulu. Le conducteur, il a dit, on m'a dit, tu viens à telle heure, dans le wagon, tu rentres dans le wagon. Alors, un wagon. Maintenant, il s'est pas posé la question, est-ce que, il y a eu le, je sais pas comment il appelle ça, le chef de, enfin, qui a attaché le caténaire, etc. Il s'est pas posé cette question, c'est pas ses affaires. Il dit, moi, on m'a dit, tu montes à 15h30, 15h30, t'allumes le moteur, il y a eu le moteur, je tire, c'est tout.
Il y a rien ou il y a rien.
Il y a ou il y a pas, c'est pas mes affaires. Ça me change pas. Moi, j'avance. C'est la même chose. Pourtant, tu vas dire, mais attends, je comprends pas, monsieur locomotive. C'est quoi ton but?
Tirer les wagons.
Ton but, c'est pas que toi tu ailles de là, du point A au point B, parce que sinon tu serais monté dans un wagon voyageur. Et même dans un wagon voyageur, le but n'est pas que la locomotive aille du point A au point B. Le but est que la locomotive tire les wagons du point A au point B. On est d'accord? C'est comme le pilote. Le but, c'est pas que le pilote il aille du point A au point B. C'est que le pilote, il amène les passagers du point A au point B. À la limite, le pilote, il a rien perdu dans le point B. Il va reprendre un autre avion ou le même avion pour retourner au point A. Lui, il a rien perdu là-bas. Donc, si tu pars en tant que pilote et t'oublies tes passagers, on dit, bah, c'est vrai que t'as décollé, mais t'es passé à côté de la plaque. Tu comprends? Ta locomotive, elle est partie, mais t'as oublié les passagers, t'as oublié le chargement. Alors, c'est la même chose. D'accord? C'est la même chose. Aimer et craindre Dieu, c'est bien. Mais il faut de la matière pour aimer et craindre Dieu. Celui qui directement, un juif qui vient directement dit « Moi j'aime Dieu, moi j'aime Dieu !» Bon, très bien. Mais il dit « Moi je fais pas les mitzvot. Moi j'ai que l'amour de Dieu. » Donc il a les ailes, le bonhomme, tu vois. Il a les ailes, mais il n'a pas le reste. On dit, mais tu sais à quoi ça ressemble? C'est exactement comme la locomotive. C'est-à-dire que le gars, il a l'amour et la crainte de Dieu, donc il a décollé, mais il a laissé tout le monde derrière, sur le carreau. C'est pas le but. C'est quoi le but? Le but, c'est qu'il y ait les deux. C'est qu'il y ait la locomotive qui est l'amour et la crainte qui permet de décoller, et d'un autre côté, des mitzvot que tu tires. Là, ça marche. Quand t'as des mitzvot plus l'amour et la crainte, ça décolle.
Évidemment, on arrive à avoir l'un ou l'autre.
Moi, je connais des gens qui vont avoir la crainte de Dieu, qui vont avoir la crainte de Dieu, qui vont aimer Dieu, mais qui font aucune mitzvah.
Ouais, ça, on arrive à avoir...
Tu vas voir un juif, tu vas lui dire, mets les tefilines. Il dit, moi, je suis juif dans le cœur, moi. Et vraiment, moi, je l'aime Dieu plus que toi. Moi. Peut-être, certainement.
Il a certainement raison.
Certainement.
Certainement.
Alors, je veux dire, voilà. Seulement, le problème, ce juif, c'est quoi? C'est que lui, il est passé directement à l'amour sans rien derrière, tu vois. Il y a rien, il tire rien derrière. Il a la locomotive, il n'y a pas les wagons derrière. Mais ça marche pas. Il faut les deux. Il faut une locomotive, il faut des wagons derrière, il faut un pilote et des passagers. Il faut le corps de l'oiseau et les ailes de l'oiseau. Si t'as que les ailes sans le corps, ça sert à rien. L'essentiel, c'est le corps, c'est la mitzvah. Et après, avec cette mitzvah, tu vas avoir des ailes qui vont voler. C'est ce qu'il dit ici. Ve'ahava beli avoda, i'ahava betanugim leit'anek al Hashem me'en olam haba. Alors, il y a quand même un niveau, et ça, c'est une question que plusieurs ont posée tout à l'heure. Il y a un niveau d'amour de Dieu, une personne qui aime Akadosh Baruch Hu sans aucun but. Il aime Dieu que pour l'aimer, sans rien chercher en retour. Ça veut dire que c'est l'amour pour l'amour, que l'amour de Dieu. Sans tirer le locomotive derrière, sans rien du tout. Il aime Dieu pour aimer Dieu. Ça, c'est un niveau de tzadikim. Les tzadikim, parfois, peuvent arriver à un niveau qu'ils aiment Dieu et qu'ils ont un sentiment d'amour pour Dieu et que le but, c'est l'amour de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Mais ça, c'est un niveau très, très, très élevé. On n'est pas à ce niveau-là. C'est ça, un niveau d'une personne que, dès qu'il arrive au niveau de l'amour de Dieu, il a tout compris. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Nous, on a un niveau dans lequel on est obligé d'avoir un certain équilibre. C'est-à-dire l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, des mitzvot qui décollent avec. On a un ensemble de choses et là, on a un équilibre. Parce que sinon, quand tu as que l'amour de Dieu, c'est un peu comme si tu as une grosse fusée qui décolle mais qui n'a rien derrière. Oh, t'as l'amour, mais concrètement, le reste, il reste sur le carreau. Qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a rien gagné. Une vie doit être équilibrée. Et c'est la même façon. Quand des fois, on a certaines familles, par exemple, des fois, le mari qui avance trop vite, ou la femme qui avance trop vite. D'accord? C'est quoi le problème? C'est la même chose. C'est quand on a un amour qui est vers Dieu, qui est trop rapide, et que de l'autre côté, on laisse tout le monde sur le carreau, ben c'est comme si que tu as la locomotive qui avance, et qui laisse les autres derrière. Qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a rien gagné. Tu les as laissés à la gare. Toutes les façons, tu devrais les rechercher. Alors, c'est quoi ton but? Ton but, c'est quoi? C'est de dire, moi, j'ai décollé, de dire, ah, ben, ils sont pas là, ben, tant pis pour eux, ils ont qu'à rester là-bas en divorce. C'est pas le but, ça. Le but, c'est d'avancer ensemble. Ah, bien sûr qu'il y a une locomotive. Il y en a un qui tire les autres. D'ailleurs, ça, on le sent. Chacun dans sa vie, on sent qu'il y a des choses sur lesquelles on tire, et il y a des choses dans lesquelles, au contraire, c'est vos enfants et votre femme qui sentent qu'ils vous tirent. C'est normal. Mais ça, c'est bien. Quand tu tires l'autre avec toi, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a une locomotive. Sur ça, je fais moi la locomotive. Je tire et ça avance. Mais si tu joues perso, tu joues et des gens, comment on appelle ceux qui jouent dans les terrains, ceux qui jouent perso?
Perso.
Oui. Même, tout seul, tu vois. Il n'y a pas de match. C'est moi le match. Le match, c'est moi. Prends la balle, et c'est moi qui va marquer le but. Bon, ça marche pas, ça.
C'est collectif.
Hein, c'est collectif. Obligé d'être en équipe. Regardez Tzadikim. Tzadikim, c'est des très très grands joueurs. Le Tzadik, il peut te prendre la balle directement et marque le but.
Le Tzadik.
Ça, c'est le Tzadik. Tu vois, le Tzadik, il te prend la balle de là-bas, et il te l'amène, et il déjoue tout le monde, et il marque. Connais personne. C'est-à-dire, lui, c'est directement l'amour.
Ça, c'est hein, le Messie.
Ça, c'est le Tzadik, ça. C'est le Tzadik. Mais celui qui n'est pas tzadik, ça marche pas comme ça. Et nous, on n'est pas tzadik, d'accord? En tout cas, moi, je ne le suis pas. S'il y en a ici qui se désigne. Donc, on sait que ça marche pas comme ça. Ok? On continue. Alors, comme ça, on termine le chapitre. Alors, Vayom la sotam tib, Vayom la sotam tib, ou le machar le kabel sraram. D'accord? Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'est pas au niveau de tzadikim. Un tzadik, il est dans un niveau que déjà dans ce monde, il commence déjà à décoller et à recevoir son salaire. Nous, on n'est pas dans ce niveau-là. Nous, on est plutôt dans un niveau dans lequel aujourd'hui, on doit travailler. Et demain, on recevra le salaire. Le tzadik, déjà aujourd'hui, il arrive à décoller, il y a des gens en haut. Nous, on n'est pas comme ça, nous. Celui qui n'est pas tzadik, aujourd'hui, il travaille. Mais, tout en travaillant, on essaie de décoller.
On a un sentiment où on avance quand même un petit peu.
Si, on a des sentiments. Mais le tzadik peut arriver à un niveau dans sa vie dans lequel à un moment.
Effectivement parlant, ça avance.
Bien sûr, ça avance.
On voit que ça avance.
Évidemment, heureusement que ça avance.
Mais nous, quoi qu'il arrive, on a l'amour et la crainte. On a la petite amour, on a la petite crainte.
Non, c'est pas de ça qu'on parle.
Si.
On parle. Non.
Les mitzvot, on a tout.
Non, parce que.
On est en première, quoi.
Combien de mitzvot on fait sans amour et sans crainte?
Non, ce qu'on fait quelque part, c'est qu'on
sait. Ah non, bah non, pas du tout.
Si, ce qu'on fait, c'est qu'on sait.
Non, pas du tout. C'est pas parce que tu vas travailler, tu amènes l'argent à ta femme, et que tu l'amènes en vacances, et que tu l'amènes un bouquet de fleurs, que tu l'aimes.
Ah mais là, on parle de Dieu.
C'est la même chose. C'est la même chose. C'est pas parce que je mets les tefillin, je fais mon Shabbat et que je fais ça que ça veut dire j'aime Dieu.
Si, quand même, tu aimes un peu.
Non.
Après, tu fais ta
pas du tout. Machinalement. Machinalement.
Ouais, machinalement,
c'est. On peut le faire. Machinalement. Oui. C'est très possible.
Ah, on dit machinalement.
Si tu veux entrer chez toi tranquillement,
mais,
dire, c'est contraignant quand même.
C'est, on est né dedans, oui, c'est machinal.
Oui, mais j'ai compris. Mais quand tu réfléchis pas à ce que tu fais, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien.
C'est un amour naturel.
Non,
machinalement ou par crête.
Il ne faut pas du tout, il n'y a rien qui est naturel. Il faut le travailler, ça.
Si, ça devient naturel.
Non.
Au début, c'est un peu travaillé.
Ah, ben non, ça ne marche pas comme ça.
Dans les sentiments, c'est quand tu vois ta femme qui est malade. Qui a fait un vertige et qui a la gerbe, qui est à 3h
voilà.
du matin. Et là, tu sens.
Et il est 3h du matin et tu la vois qu'elle est pas bien et t'es crevé. Et t'es crevé, tu veux dormir. Et tu fais un effort.
Là, tu crois que tu l'aimes vraiment.
Ah oui.
Là, tu l'aimes.
Ah oui, bien sûr.
C'est pas des fleurs, c'est pas des voyages.
Là, c'est vraiment.
Tu pars dans le.
Ça, ça vaut 10 voyages. Bien sûr.
Dans le bébé, il pleure. Il lève toi ou tu
partages.
Voilà. Ok. Alors, on termine. On termine, Rabotaï. Maintenant, nous ne sommes pas au niveau des tzadikim. Rabotage, je voudrais juste terminer. Nous ne sommes pas au niveau des tzadikim. Donc nous, on doit décoller vers Hachem. Maintenant, écoutez bien le machal que donne le Morazaken. Il dit, imaginez une personne qui dit, je veux m'approcher de Dieu. Je veux m'approcher de Dieu. Mais il fait rien pour ça. Vous savez à quoi ça ressemble? Le prophète Jérémie donne un exemple. Il dit, c'est comme si une personne qui est devant l'eau, et qui dit, j'ai soif! Donnez-moi à boire! J'ai soif! Alors qu'est-ce que tu lui dis à ce bonhomme? T'as soif?
Tranquille.
Baisse-toi, va prendre de l'eau! C'est la même chose. T'as un juif qui dit, mais moi j'aime Dieu! Moi j'adore Dieu! Moi j'ai la crainte de Dieu, etc. Mais fais pas les mitzvot. On dit, mais attends, tu aimes Dieu? Mais tu dis que tu veux aimer Dieu, tu veux t'approcher de lui? Mais t'as la Torah devant toi! T'as les mitzvot devant toi! C'est là la soif, c'est ce qui va approcher ta soif. Fais la Torah, fais les mitzvot! Bonhomme, il est là en train de dire, j'ai la locomotive, je vais décoller. Mais il est là, ton wagon. Il est derrière toi, ton wagon. Il est avec toi. Pourquoi tu vas chercher en haut quand c'est juste devant toi? Le tzadik, lui, peut se permettre d'aller directement en haut.
Mais joue.
Exactement. Va jouer. 100% des gagnants en loto ont joué.
Non, ont tenté leur chance. Ça va.
Ils ont joué au loto. Bah oui, parce qu'ils ont pas joué, ils ont pas pu gagner.
Non, mais on est obligé de prouver son amour.
Quoi?
Vraiment?
À qui as-tu? T'es pas obligé. Voilà. T'es pas obligé, David. T'es pas obligé. Mais si tu ne le fais pas, tu passes à côté de la blague.
Non, pourquoi
si tu le fais pas, c'est comme le train que tu laisses à la gare. Tu mets le train avec les chargements, tu mets tout. Où est l'avion, tu vois? On reste à l'aéroport, sur le tarmac, et on reste comme ça. Allez, voilà, on est bien ici. Pourquoi tu veux qu'on décolle? C'est galère. Un décollage est risqué, on risque de se cracher, et l'atterrissage, etc. On est bien sur le tarmac, on est bien.
On reste à la maison devant la télé.
On a la clim, on a les films, on a tout ce qu'il faut. On décolle pas, on est bien ici. Ça marche pas comme ça. Le but c'est de décoller. Mais décoller avec les mitzvot. Parce que celui qui est en train de dire d'un autre côté, je vais décoller. C'est-à-dire qu'il veut que le décollage, que l'amour et la crainte sans les mitzvot. Bah, on lui dit, bah, t'es comme si une personne qui est en train de crier, j'ai soif, et il boit pas. Nous, notre soif, c'est l'amour. Et comment on boit? Avec la Torah, avec les mitzvot. Oui. Vous voyez ces images qu'ils ont ici? C'est magnifique, ces images. Ça veut dire que, c'est ce qui explique Selma Rasaken. Il te dit que, voilà. Ici, ce qu'on te dit, c'est que, il y a cet équilibre entre d'un côté la kavana, donc ce qui est l'amour et la crainte, comme on l'a développé longuement aujourd'hui. D'un côté, l'amour et la crainte pour avancer vers un kadosh baruch hu, et d'un autre côté, les mitzvot. Et on est obligé d'avoir les deux. Un aspect technique de la mitzvah, et d'un autre côté, un aspect qui nous permet de nous envoler, obligés d'avoir les deux. S'il manque un des deux, ça marche pas. Si tu as que l'amour et la crainte, sans avoir de la matière, sans avoir de la chair, sans avoir du corps, on dit que tu passes à côté de la plaque. C'est comme si tu veux décoller alors qu'il n'y a rien derrière. Si d'un autre côté, tu as que les mitzvot, que la chair, mais que tu n'as pas d'aile, on dit, c'est quand même dommage. Tu construis un avion, tu construis un train et tu le laisses à la gare. D'accord? Il faut les deux. Et ça, c'est l'exemple de l'oiseau. L'oiseau, il a le corps de l'oiseau, c'est la mitzvah. C'est le corps de la mitzvah. Il a l'amour et la crainte. C'est la kavana qu'on va mettre dans la mitzvah, l'amour et la crainte. Maintenant, Bezrat Hashem, je m'arrête là pour aujourd'hui. Ce qu'on va développer la semaine prochaine, très intéressant, chapitre 41, chapitre passionnant, c'est d'essayer de comprendre, quand on est dans la relation avec Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire passer en priorité? L'amour ou la crainte? vous allez voir qu'il y a plusieurs implications. Par exemple, j'éduque un enfant. Comment je l'éduque? Je l'éduque d'abord à aimer Dieu, et après, avec le temps, il va apprendre à craindre Dieu. Ou je l'éduque d'abord à la structure, aux règles, à la crainte, et après, on passe à l'amour. Comment ça fonctionne? Et quand je veux m'attacher à quelqu'un, je commence par la crainte, et après, je redresse par l'amour, ou je commence par la crainte, et je redresse par l'amour? Comment ça fonctionne?
Et puis, il y a l'aspect du quantitatif. Combien de temps?
Oui.
Dans une journée, on peut donner.
Et ben ça,
temps
ben,
à Dieu.
Ça va
être. 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, une demi-journée.
On va parler de tout ça.
C'est
ah oui, c'est très intéressant ça. C'est le chapitre 41.
J'aime Dieu, mais il gagne quoi? 10 minutes, 2 minutes par jour.
Chapitre 41. Voilà. C'est vraiment ça, être là pour aujourd'hui. Bonne nouvelle.